RCF.
Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, écrivait Arthur Rimbaud dans le poème « Adieu » tiré d'une saison en enfer. Dans le même poème, on lit encore « Mais pas une main amie et où puiser le secours ?» Face au champ de ruines que semble parfois être devenu notre monde, nous cherchons souvent une main amie. Et nous espérons que cette main amie nous aidera à traverser ces temps de catastrophe, sans cynisme, sans indifférence, et pour aller au-delà du désespoir. La pensée de Simone Veil est une de ces mains amies qui nous arme pour le combat spirituel. Simone Veil, qui dans sa courte vie, elle meurt à 34 ans à Londres, en pleine guerre mondiale, Simone Veil qui a connu tous les effondrements du XXe siècle. Elle a connu, elle aussi, le combat spirituel. Elle a connu le combat des hommes. Et ô combien terribles ont été ces combats. Elle s'y est jetée au point d'en mourir. Oui, l'œuvre de Simone Veil n'en finit pas de rayonner aujourd'hui. Elle fut une passante considérable. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai invité deux philosophes qui sont spécialistes de l'œuvre de Simone Veil, qui passent beaucoup de temps avec elle. J'ai ici avec moi Jean-Marc Guitti. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Et j'ai Pascal David qui lui aussi fréquente assidûment, non pas la Vierge Rouge que fut Simone Veil, mais son œuvre qu'il lit, commente régulièrement. Bonjour.
Bonjour Montserrat Avidal, bonjour aux auditeurs de RCF.
Alors, il faudrait peut-être, pour aller vers l'œuvre de Simone Veil, et plus particulièrement deux œuvres dont nous allons parler aujourd'hui. D'abord, l'œuvre de Jean-Marc Guitti, qui s'intitule « Passage et présence de Simone Veil, état des lieux aux éditions Quimet ». Puis, l'œuvre qu'annote, que préface Pascal David, qui s'intitule « Luttons-nous pour la justice ». Pour parler de ces deux œuvres, je vous invite à méditer ou à réfléchir, à donner vos impressions sur cette phrase assez banale et pourtant très importante qu'avait prononcée Albert Camus à propos de Simone Veil. Celui-ci disait que l'on s'accorde à reconnaître que Simone Veil a été le seul grand esprit de notre temps et qu'il paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies. Jean-Marc Guitti, le seul grand esprit de notre temps, Simone Veil ?
Non, on ne peut pas dire ça quand même, il y en a eu beaucoup d'autres, mais Camus a fait plus que de reconnaître que Simone Veil était un grand esprit. Il a contribué largement à la faire, à publier ses livres et à la faire connaître. Et d'ailleurs, il a lui-même subi, je ne sais pas s'il faut dire subi, il a été très influencé à un moment par Simone Veil et on trouve les traces de cette influence dans L'homme révolté, notamment à la fin.
Pascal, David, le seul grand esprit, imaginer une Europe qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies, c'est aussi la question que vous vous posez, vous, en essayant de lire l'œuvre de Simone Veil, et particulièrement ce texte, « Luttons-nous pour la justice », pour éclairer les temps présents.
Camus dit cela après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où, effectivement, il fallait reconstruire l'Europe, et il fallait reconstruire l'Europe selon d'autres principes que la force que met en avant, en valeur, le nazisme. Il fallait trouver d'autres principes que la force pour reconstruire l'Europe. Et je crois que nous vivons une époque où nous avons, nous aussi, à reconstruire l'Europe. Et pour cela, effectivement, Simone Veil nous éclaire.
Des temps de catastrophe, c'était ceux de la Seconde Guerre mondiale. Des temps de catastrophe, c'était ceux également de la post-Seconde Guerre mondiale, où tout était à reconstruire et sur quelle base. Des temps de catastrophe pour nous aujourd'hui, Jean-Marc Guitti.
Eh bien, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un certain nombre de perplexités, de problèmes. Enfin, l'idée du temps de catastrophe, c'est aujourd'hui, du point de vue de l'écologie, oui, qu'on en parle. On ne peut pas dire que Simone Veil ait été à proprement parler une écologiste, ça serait anachronique. Néanmoins, je pense qu'elle a contribué à, ouvrir des voies pour l'écologie d'aujourd'hui. Notamment avec cette notion de beauté du monde sur laquelle elle insiste beaucoup. Pour elle, la beauté est un besoin essentiel de notre âme. Et préserver la beauté de la nature, par exemple, la beauté des sites, la beauté des lieux, nous sommes confrontés à cela aujourd'hui. Et elle ouvre des voies en ce sens. Et puis, je dirais que les valeurs qu'a portées Simone Veil sont des valeurs qui aujourd'hui peuvent être partagées, reprises par l'écologie. Notamment cette valeur de consentement qui était si importante pour elle. Nous avons effectivement à consentir qu'il existe des choses avant nous, qu'il existe un monde dont il nous faut prendre soin tout en le prenant en charge et que nous devons le respecter. Si ces valeurs entrent vraiment au profond de notre âme, alors l'écologie va devenir quelque chose de naturel pour l'être humain. C'est loin d'être le cas dans notre culture. Et donc il y a une réforme, je dirais, de notre système de valeurs à faire. C'est le cœur, à mon avis, de l'engagement au niveau de l'écologie. Et pour réformer ce système de valeurs, Simone Veil nous est très précieuse. Il faut la lire, effectivement.
Pascal David, vous êtes très sensible à cette question. Vous écrivez également des chroniques qui réagissent aux événements du monde tel qu'il va, et je rajouterai mal. En quoi, Simone Veil, vous êtes-elle, vous, en tant qu'homme, en tant que philosophe, je rajouterai également en tant que Dominica, en tant qu'enseignant, vous êtes-elle à penser le monde tel qu'il va ?
Vous avez dit, vous avez employé l'expression « temps de catastrophe », qui est effectivement une expression d'Albert Camus. Dans son discours du prix Nobel, il raconte le parcours des gens de sa génération et il dit « il aura fallu se forger un art de vivre par temps de catastrophe ». Et effectivement, nous aussi, il nous faut nous forger un art de vivre par temps de catastrophe. Et pour aller dans le même sens que ce que vient de dire Jean-Marc Guitti, je dirais la chose suivante. Effectivement, la catastrophe aujourd'hui prend la forme de ce qu'on appelle habituellement l'écologie, que Simone Veil est effectivement attentif à ce qu'elle appelle la sensibilité à la beauté du monde, selon son expression. Et j'ajouterai que dès les années 30 du siècle dernier, les années 1930, elle est consciente des limites que vont rencontrer la production. Le concept de limite est très important chez Simone Veil. Et c'est pour ça qu'elle invite, par exemple, à reconsidérer notre société à partir de la notion de besoin et non pas de désir. Notre désir est illimité. On peut toujours désirer plus, désirer produire plus, désirer consommer plus, recouvrir et faire crouler sous le monde sous le poids des objets, des déchets. Et contre ce désir illimité, elle propose la notion de besoin de l'âme. Elle propose de reconsidérer notre vie à partir de cette question : de quoi avons-nous véritablement besoin pour vivre ?
C'est cela peut-être l'actualité formidable, dans le sens premier du terme, de la pensée de Simone Veil.
C'est un des éléments d'actualité
c'est
de Simone
un des
Veil,
éléments.
La notion de besoin de l'âme.
Merci pour cette approche de Simone Veil. Jean-Marc Guitti, vous publiez donc, je le disais tout à l'heure, aux éditions Quimet, un bel ouvrage riche, documenté, et je rajouterais très sensible, voire poétique, que vous intitulez « Passage et présence de Simone Veil, état des lieux ». Nous suivons dans cet ouvrage un itinéraire géographique, un itinéraire philosophique, un itinéraire politique et surtout, dirais-je, au-delà de tout cela, un itinéraire spirituel. Vous faites, au sens propre du terme, un état des lieux. Alors, cette jeune normalienne, brillantissime, infiniment cultivée, qui était Simone Veil, a été, c'est ce qui me frappe à la lecture de votre ouvrage, une itinérante, une errante peut-être, pourrions-nous dire. Et en même temps, comme vous la définissez comme un être profondément spirituel, une âme en exil dans ce monde. Est-ce que vous corroborez cette première lecture que j'ai faite de votre œuvre ?
Oui, absolument. La vie de Simone Veil, c'est un tourbillon. Elle change sans cesse de lieu, elle se déplace beaucoup. Et pourtant, elle est celle qui pense la notion d'enracinement et elle valorise l'enracinement. Et on voit donc qu'il y a une contradiction entre l'idée qu'on peut se faire de l'enracinement comme une manière de s'établir en un lieu fixe et d'y rester, et la vie de Simone Veil. Seulement, l'enracinement, ça n'est pas cela chez Simone Veil.
Ça n'est pas l'immobilisme.
Ça n'est pas l'immobilisme. C'est principalement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, un enracinement spirituel, dans un milieu, dans une tradition, dans un système de valeurs qui est ce qu'elle appelle l'enracinement. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de catastrophe, on peut remarquer que la catastrophe contemporaine, évidemment, ce n'est pas cette montée, cette marche vers la guerre qu'elle a vécue dans les années 30, mais c'est pas simplement l'inquiétude écologique pour nous, c'est une catastrophe humaine que nous vivons, avec une crise culturelle, avec une société de consommation où les êtres humains semblent ne plus être éveillés à la spiritualité, ne plus faire référence à des valeurs. Et c'est contre cette catastrophe proprement anthropologique, on pourrait dire, que l'œuvre de Simone Veil peut nous aider, d'une part, à cerner les origines de cette catastrophe anthropologique où nous sommes, et d'autre part, à ouvrir certaines voies. Si moi j'ai voulu présenter sa pensée à travers les lieux, c'est parce que, effectivement, j'ai travaillé depuis longtemps sur cette idée de lieu. Le lieu me semble une réalité à la fois sensible et naturelle. C'est une manière aussi de parler de la nature. Et puis le lieu, c'est aussi un lieu d'inspiration, c'est-à-dire c'est toujours une invitation à la vie spirituelle, le lieu. Donc j'ai adopté cette démarche, mais avec l'idée que Simone Veil pense vraiment les grandes questions politiques de son époque. Et donc j'essaie de développer les grands thèmes de sa pensée.
Pascal David, vous avez publié, vous republiez aux éditions du Peuple Libre une série de textes, et notamment « Luttons-nous pour la justice ». Cette âme en exil que peut nous apparaître parfois Simone Veil, elle est aussi profondément ancrée, en phase avec les problèmes sociaux, politique que traverse le XXe siècle, notamment dans les années 30. Et cette question qu'elle pose, luttons-nous pour la justice, nous montre bien que le fait d'être une âme mystique, d'aspirer à une vie spirituelle comme elle le fait, ne l'éloigne pas du tout des problèmes concrets que traversent diverses classes sociales ou divers milieux dans ces années 30.
Tout à fait, vous avez raison. pour Simone Veil, faire de la philosophie n'est pas construire un système philosophique, n'est pas chercher une nouvelle philosophie, mais faire de la philosophie, c'est d'une part se laisser inspirer par les grandes œuvres, par les grands auteurs, au premier rang desquels les stoïciens, Marc Aurèle et Platon, et d'autre part, se mettre au service de ses contemporains, de son temps, de son époque, comprendre ce qui est en train de se passer, opérer ce qu'on peut appeler un diagnostic du présent, de telle manière qu'on a les moyens de se laisser inspirer pour proposer un ordre social, une nouvelle civilisation, comme elle dit, une civilisation à la fois antique et en même temps renouvelée.
Cette jeune femme qui est une brillante intellectuelle, qui sort de Normal Sup, qui est une helléniste avertie et plus que cela, dont le frère est un brillant mathématicien, est aussi celle qui voit les conflits sociaux, qui voit le travail en usine, qui voit l'enfer que sont les cadences. Donc cet ouvrage dont nous parlions à l'instant, Pascal David, c'est à cela qu'il répond de cette inquiétude du problème de division des milieux, de la fragmentation de la société que perçoit Simone Veil.
Oui, Simone Veil est ce qu'on peut appeler une philosophe de terrain, c'est-à-dire que la pensée ne s'élabore qu'à partir de l'expérience. C'est en allant éprouver le réel que Simone Veil se met à penser, notamment en allant à l'usine pour éprouver en bas de l'échelle sociale ce que veut dire supporter la force qui s'exerce sur les ouvriers. Je voudrais profiter pour dire tout le bien que je pense de l'ouvrage de Jean-Marc Guitti, qui est à la fois un ouvrage profondément médité sur les différents lieux que Simone Veil a parcourus au long de son existence, notamment les lieux où elle a enseigné, par exemple le Puy, et à partir de ces lieux, réfléchir aux différents aspects de la réflexion de Simone Veil pour nous faire comprendre, à nous lecteurs, quel usage nous pouvons faire aujourd'hui des différents aspects de cette réflexion. Par exemple, les questions d'écologie, il en a été question, les questions de travail, les questions d'éducation, les questions de démocratie et de politique,
de pouvoir,
etc.
Dialogue, Montserrat Vidal.
Pascal David, vous disiez combien les lieux dans lesquels Simone Veil a enseigné, vécu, milité sont importants pour comprendre l'évolution de sa pensée. La première ville dans laquelle Simone Veil a été nommée en tant que professeur de philosophie dans un lycée, autrefois on disait de jeunes filles, ça a été le Puy. Le Puy d'où vous venez vous-même, Jean-Marc Guitti, et où vous avez enseigné.
Oui.
Arrivé dans les années 30, dans cette ville mariale, assez refermée sur elle-même, ville de pèlerinage, pour Simone Veil, qu'est-ce que cela a représenté?
Alors, je vais éclairer ce que vous venez de dire, poursuivre sur le puits. Le chapitre sur le puits du livre de Jean-Marc Guitti est l'occasion pour lui de montrer qu'à partir de la géographie sociale de la ville, Simone Veil transgresse les frontières. Simone Veil bouleverse l'ordre social. C'est d'abord une jeune fille qui fréquente des hommes, qui va dans la rue, qui va au café.
Transgression de sexe.
Transgression. C'est aussi une fonctionnaire qui entre en contact avec des travailleurs manuels, des chômeurs, des malheureux.
Transgression de classe.
De classe. Et enfin, c'est une révolutionnaire qui introduit des idées subversives dans une ville conservatrice. Elle crée du scandale, dites-vous, Jean-Marc Guitti. Et vous dites, elle s'écarte du comportement attendu par son statut. Et plus loin, elle met en œuvre une poétique de l'inconvenance sociale systématique. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par cette poétique de l'inconvenance sociale systématique ?
Il est vrai que Simone Veil ne s'est jamais finalement identifiée. Ce qu'il y a de profondément spirituel dès son plus jeune âge, c'est de rester un petit peu à côté du statut social qui est le sien. Une bourgeoise qui est professeure de philosophie, une intellectuelle, elle se déporte par rapport à elle-même. C'est quelque chose qu'elle va pousser et développer tout au long de sa vie, ça, ce décentrement. Et pour ce qui est du puits, on le voit déjà à l'œuvre socialement, puisqu'elle ne se comporte pas comme on attend d'un professeur de philosophie au lycée de jeunes filles. Et ce qu'elle va susciter, de ce fait, des réactions.
Vous permettez, Jean-Marc Guitti, que je lise une citation prise dans le Nouvelliste de Lyon qui parle à propos de Simone Veil, d'une, je cite, « mousquetaire militante et agitante ». Et pire, dans le Charivari à Paris, on parle d'elle en ces termes, « on nous demande ce que la juive Simone Veil, professeure de philosophie au lycée de jeunes filles du Puy, peut bien faire à la tête des manifestations de chômeurs de cette ville ». Voilà où est le scandale.
Voilà, donc il y a eu une campagne de presse contre elle sur un fond certain d'antisémitisme. Et je pense que ça va la marquer suffisamment pour qu'ensuite, plus tard, elle amorce toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la presse et comment une démocratie peut mourir ou en tout cas décliner à cause d'une certaine presse. Et donc là, on est dans quelque chose de très actuel. Si on prend, par exemple, les travaux d'un historien comme Gérard Noiriel, il montre bien que il y a la loi de 1881 en France qui est totale libération de la presse et qu'ensuite ça va, avec la presse écrite, donner lieu à de nombreuses campagnes de presse et ça va créer l'antisémitisme. On peut se demander aujourd'hui, effectivement, si avec d'autres moyens que la presse a pour s'exprimer, notamment les chaînes d'infos en continu et puis les réseaux sociaux,
qui amplifient tout cela.
On n'a pas un peu le même risque. Et à ce moment-là, Simone Veil peut nous servir un peu d'éclaireuse, si je puis dire, en montrant que ce qu'il s'agit de faire finalement, c'est de réfléchir avec une certaine profondeur et surtout d'avoir bien les valeurs de notre civilisation en tête. Car une société livrée à elle-même est une société divisée, une société où les uns vont s'en prendre aux autres et désigner les autres comme bouc émissaire. Mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes les héritiers d'une grande civilisation. Et ce noyau civilisationnel, c'est-à-dire ces valeurs fondamentales qu'elle va retrouver complètement dans le christianisme, ce noyau de valeurs doit toujours vivre en nous pour nous permettre de ne pas nous laisser entraîner Et d'ailleurs, pour en revenir au puits, Simone Veil répond très peu aux reproches qui lui sont faits. Elle poursuit son chemin avec un idéal de justice, surtout un idéal, je dirais, de compassion, parce qu'elle a pris la défense des chômeurs parce qu'ils étaient malheureux. Et d'un bout à l'autre de son itinéraire, et dès l'enfance, elle est extrêmement sensible au malheur des autres. Et c'est pour comprendre qu'est-ce qui rend les hommes si malheureux qu'elle va construire toute une réflexion sur les besoins de l'âme.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal David, les besoins de l'âme et non pas le désir illimité. Et en même temps, il y a cette attention, c'est un mot aussi important pour Simone Veil, qu'elle porte aux autres, à la souffrance.
Oui, moi je dirais la même chose, mais un peu autrement que vient de dire Jean-Marc Guitti. Je n'emploierai pas à propos de Simone Veil le terme de valeur. Parce que pour Simone Veil, il y a un bien qui existe. Et l'attention est l'attention à un bien qui se donne. Alors que la valeur ne vaut que parce qu'une volonté la défend. Et le propre des valeurs, c'est de se dévaluer. Une valeur ne tient que portée par un sujet qui la promeut, la valeur. Alors qu'il me semble que Simone Veil, il ne s'agit pas d'un sujet qui promeut des valeurs, mais d'une attention qui s'ouvre à un bien qui se donne. Comment vous diriez des choses ?
Je dirais que l'attention, c'est surtout la capacité de faire attention aux autres dans ce qu'ils ont de faible et de fragile et ce qui fait leur souffrance. Évidemment, il y a aussi, si elle a voulu travailler en usine, c'est pour rencontrer la réalité de la matière. C'était l'une de ses motivations. Mais le réel, finalement, qu'elle va rencontrer en usine, c'est principalement la souffrance des ouvriers, des ouvrières qu'elle va côtoyer. Et donc, évidemment, il y a une attention à la souffrance de l'autre. Après, certainement qu'on pourrait mettre entre guillemets le mot de valeur. Effectivement, elle parle du bien dans un sens platonicien et qui doit descendre en quelque sorte dans l'âme. Je dirais que encore faut-il la condition sociale de l'homme lui permette d'accueillir et de s'ouvrir
à
ce bien.
Tout à fait. Et donc ça permet de penser une politique pour aujourd'hui qui rend ces conditions possibles.
Une politique pour aujourd'hui, ce sera l'objet de la seconde émission qui va développer toutes ces idées que nous avons amorcées. Merci Jean-Marc Guitti, merci Pascal David.
Merci.
Nous nous retrouvons très bientôt.
Merci, à bientôt.
Pour la seconde émission.